Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Mon premier mot, bien sûr, est pour le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à son Fils bien-aimé, en qui il a mis toutes ses complaisances, et au Saint-Esprit. Nous chanterons tout à l'heure le Te Deum, le chant d'action de grâce de l'Église, pour remercier la Providence de cette semaine particulière, au terme de laquelle eh bien, l'Institut du Bon Pasteur existe, vit et va se mettre au travail. Je vais vous en dire un peu le détail, mais enfin, je tiens d'abord à remercier le Bon Pasteur lui-même. Je pense à la phrase de Sainte Jeanne d'Arc, « Les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire ». Et nous l'avons vu. Ce combat, c'est celui que nous menons depuis des années maintenant. Nous avons bien lutté. Je vous en félicite. Je dis aujourd'hui aussi, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et puis s'est retourné, plein d'usage et raison, vivre parmi les siens le reste de son âge. Content de vous revoir, bien sûr, vous imaginez. Mais enfin, c'est ce travail que nous avons fait ensemble qui a été béni et qui porte ses fruits. Le Bon Pasteur existe, je vais vous en parler plus longuement, et il me faut aussi remercier la Vierge Marie. La Vierge Marie parce qu'elle est la protectrice secondaire de cette œuvre en la fête du Cœur Immaculé de Marie, pour laquelle nous avons toujours eu une dévotion particulière ici à Saint-Éloi. N'oubliez pas que nous lui avons consacré l'Église dès les premiers jours. Et ce patronage secondaire du Cœur Immaculé de Marie, certainement, nous a été puissamment secourable. Ceci dit, je vous remercie vous aussi. Parce que si c'est Dieu qui a donné cette victoire, c'est nous, les hommes d'armes, qui avons combattu. Et je vous ai dit souvent, il est inutile de prier si on ne fait rien, inutile de faire quelque chose si on ne prie pas. Et c'est la conjonction des dieux qui font ce succès. Alors que s'est-il passé à Rome, dont nous arrivons avec M. l'abbé Herry, M. l'abbé Olanier, M. l'abbé de Tanoirn? Nous avons été reçus donc par le cardinal préfet de la congrégation, qui ne nous a pas caché qu'il était mandaté spécialement par le pape Benoît XVI. Plusieurs fois, il nous l'a dit, et qu'il avait parfaitement son accord. Il a été érigé donc le 8 septembre, à midi environ, l'Institut du Bon Pasteur, qui est un institut de vie apostolique, de clercs séculiers, comme sont vos prêtres. Il est de droit pontifical, c'est-à-dire que tout son clergé ne dépend que de Rome et aucunement des évêques locaux. Il a pouvoir d'incardiner tous ses membres, autrement dit, depuis vendredi midi dernier, votre serviteur, mais aussi M. l'abbé Olanier, M. l'abbé de Tanoirn, M. l'abbé Herry, M. l'abbé Forestier et notre diacre prieur sont incardinés dans cet institut. Dès son érection, il a juridiction ordinaire, enfin la voilà, au fort interne et au fort externe sur tous ses membres. Il a pouvoir d'ouvrir un séminaire et d'appeler aux ordres. Quelle responsabilité terrible d'ailleurs que celle d'appeler aux ordres au nom de la Sainte Église. En tous les cas, tout ceci est fait et bien fait. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il se trouve que pour la première fois, un institut de vie apostolique n'est pas seulement, on ne lui permet pas seulement de conserver la liturgie traditionnelle, mais je serai plus précis, on lui en donne l'ordre. Il est écrit dans les statuts qui ont été approuvés par le cardinal préfet de la Congrégation pour le clergé que le rite propre de l'institut est la messe traditionnelle dans tous ses actes liturgiques, y compris le rituel, c'est-à-dire le livre des sacrements, mais le bréviaire, mais également le pontifical, et évidemment, en premier lieu, le missel. C'est un rite propre, c'est-à-dire que si quelqu'un disait une autre messe, et quelle qu'elle soit, il sortirait de son rite. Et c'est l'usage exclusif. Autrement dit, la Sainte Église nous donne aujourd'hui l'ordre, je dis bien l'ordre, de célébrer la liturgie de toujours, à défaut de tout autre. Ce qui est une avancée considérable. Et comme nous l'a répété plusieurs fois le cardinal Castrianoios, aujourd'hui, la messe traditionnelle n'est plus une permission, Comprenez ce que cela veut dire, elle peut aussi être un devoir et une obligation. Quelle avancée formidable, formidable. Et on peut dire, je crois, que ce grand pas de géant qui vient d'être fait est non seulement pour nous, mais également pour toute l'Église, eh bien, est le signe, la préparation, la propédeutique de ce document qui sortira certainement en novembre, où les droits de la messe traditionnelle seront rétablis dans toute leur dignité. Oh, il y aura encore, n'en doutons pas, de très nombreuses victoires à obtenir, des combats à livrer, mais enfin, il y a là un pas de géant qui vient d'être fourni. Enfin, dans l'Église catholique, va pouvoir s'ouvrir un débat qui consistera en autre chose que de s'envoyer des insultes. Il y a des vraies questions. Il y a des questions théologiques pointues, et en particulier celles concernant le Concile Vatican II. Sur ce point, nous avons l'obligation aussi, ce qui est inespéré, mais de travailler à rendre, sous la conduite du pape qui seul peut le faire, mais à rendre l'authenticité de la doctrine catholique. Je veux dire par là que tout ce qu'il y a d'ambigu, voire de faux, doit être par nous rétabli en vue de donner enfin une interprétation authentique de ce concile, ce qui suppose d'ailleurs qu'elle n'existe pas totalement. Et je vais vous en donner quelques exemples. La liberté religieuse a fait couler beaucoup d'encre, vous le savez. Et effectivement, il y a des choses apparemment et textuellement contradictoires avec le magistère précédent. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il était encore cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a rectifié déjà cette doctrine lorsqu'il était en Argentine en 1988, au moment des sacres de Mgr Lefebvre. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail de la théologie, mais enfin je vous citerai encore un autre exemple, le fameux subsistitin. Il est dit dans le Concile Vatican II que l'Église fondée par Jésus-Christ subsiste dans l'Église catholique, alors que la doctrine traditionnelle est évidemment que l'Église fondée par Jésus-Christ est l'Église catholique. On peut donner toutes sortes de sens à ce subsistitin. Il en est même qui disent qu'il est encore plus puissant que le verbe être. Bon, toujours est-il que si je dis à l'un d'entre vous qu'il subsiste dans sa personne, il va me regarder bizarrement, et comme je vous le disais il n'y a pas longtemps, il va changer de trottoir en disant « l'abbé Laguérie est devenu fou ». Je salue vos personnes par votre nom lorsque je vous croise dans la rue. Je ne salue pas celui qui subsiste en vous. Bref, il faut redonner un sens véritablement et uniquement catholique à tous ces textes, et c'est également le travail confié à l'Institut. Autre tâche confiée à l'Institut, l'ouverture de paroisses. C'est sa spécificité propre. Et on pourra s'enorgueillir avec une véritable fierté d'avoir été le prototype de celle qui maintenant, avec ses pouvoirs qui sont les nôtres, ses devoirs, nous n'avons pas que des pouvoirs, nous avons des devoirs surtout, eh bien pourront permettre l'établissement d'autres paroisses. Dans quelques jours, j'ai déjà été appelé par le cardinal Ricard, nous allons négocier justement ce contrat d'association de l'Église Saint-Éloi avec le cardinal Ricard. Il est écrit dans les statuts, dans le décret d'érection, que cette paroisse Saint-Éloi sera confiée à l'Institut du Bon Pasteur. Ce qui est tout nouveau. Il y a un autre exemple en France de paroisse personnelle, mais elle a été confiée à un homme, et à un homme seul, M. l'abbé Loiseau à Toulon. Il n'y a pas d'exemple de paroisse confiée directement, avec toutes ses prérogatives de l'obligation de la liturgie traditionnelle, à un institut fait pour cela. Et il est évident que cette première en France, eh bien, nous avons la charge et l'obligation de la multiplier. Oh, je sais, ce ne sera pas forcément très facile. Je sais que ce sera encore beaucoup de labeur, beaucoup de prières, mais enfin, il y a un prototype et nous avons chargé mission de le multiplier, de le prolonger. C'est formidable. C'est formidable et exaltant. Et nous remercions vraiment les autorités qui nous ont permis de réaliser cela. Vous me direz, mais il y a eu des compromissions, ben non, vous avez bien vu, sur la liturgie, aucune, sur la doctrine, aucune, et encore moins, si je puis dire. Quelle est la contrepartie d'une telle chose? Eh bien, je vous répondrai deux choses. La première contrepartie, si vous voulez, c'est la nécessité dans laquelle se trouve l'Église d'avoir affaire à nous. Le cardinal Ricard me disait il y a quelques semaines, lorsque je le rencontrais dans son bureau, et avec beaucoup de bienveillance, jusqu'à présent, les traditionalistes, plus ils étaient loin, plus ils étaient excommuniés, schismatiques, et j'en passe et des meilleurs, mieux on se portait psychologiquement. Force nous est de constater que vous êtes de l'Église, et soit dit entre parenthèses, ce n'est pas un retour au bercail, mais du tout. On appartient à l'Église par sa foi, par son baptême et par la reconnaissance du pontife romain. Ça, nous l'avions déjà. C'est la manifestation de cette reconnaissance que nous étions catholiques. Voilà ce qui s'est passé. Je ferme la parenthèse. Eh bien, il me disait donc, le cardinal Ricard, que plus nous étions loin, plus ça arrangeait les mentalités des évêques. Il va y avoir une révolution, il faut qu'il y ait une révolution au sens technique du mot, c'est-à-dire un retournement de ces mentalités. Il est quand même incroyable que depuis 30 ans, dès que vous gardez la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et la doctrine catholique et la liturgie de toujours, on vous traite de tous les noms d'oiseaux et de colibés, infamant, tout cela va cesser, évidemment, devra cesser. Et s'il y a quelques attardés, eh bien, il faudra qu'ils changent, mais pas nous, c'est certain. Il y a donc ce travail apostolique à faire. Il est considérable, ce sera un combat, j'allais dire, au cas, partout, pour reconquérir le terrain perdu. Mais enfin, aujourd'hui, il se passe une chose considérable, c'est que nous en avons les moyens. Les moyens, je vous l'ai déjà dit, je ne reviens pas là-dessus, c'est nos statuts avec ces deux charges essentielles, qui sont les trois charges essentielles de nos statuts, que je résume, donc cette obligation à la messe traditionnelle, ce devoir de critique pour donner la véritable interprétation du Concile Vatican II, et troisièmement, cette ouverture des paroisses qui est dans nos statuts, qui est dans nos statuts. C'est également un ordre de la Sainte Église romaine qui nous confie ce travail, c'est vraiment merveilleux. Alors à nous de le faire dans l'action de grâce, et ceci n'est qu'un début. Le cardinal Ricard me téléphonait encore hier, il me dit il faut qu'on se rencontre très rapidement pour voir quel développement on va donner à cet heureux événement. Il faisait allusion à la nativité de la Sainte Vierge Marie, bien sûr, 8 septembre, et également à la naissance de ce beau bébé qu'est l'Institut du Bon Pasteur. Alors, remercions Dieu, remercions la Providence, la Vierge Marie, remercions aussi les autorités romaines, le cardinal Castrillonios et le cardinal Ricard. Sans doute, il y a eu beaucoup de difficultés par le passé, mais il me semble que c'est relations qui ne consistaient que dans des bras de fer et des insultes, à partir du moment où on a les garanties de rester ce que nous sommes, or nous les avons bel et bien, nous en avons même l'obligation, et c'est là que cette convention, enfin cette érection est merveilleuse, et bien à partir de ce moment-là, le travail va pouvoir enfin se faire. Mais attention, ce n'est pas un tédéum de repos que nous allons chanter tout à l'heure, c'est un tédéum comme tout tédéum d'action de grâce, évidemment, mais c'est une obligation grave qui nous incombe, nous les prêtres d'abord, vous qui nous aidez si merveilleusement depuis tant d'années, comme beaucoup d'autres le feront aussi, eh bien c'est une obligation de missionnaire, c'est une obligation de travailler à la reconstruction. J'ai dit à tous ces cardinaux que j'ai rencontrés, écoutez, on ne va pas discuter sur la pastorale des 30 dernières années, qui n'ont pas été des glorieuses. Je répète tout le temps, tant pis si je commence à radoter, lorsque j'étais gamin, il y avait 85% de baptisés en France, il y en a aujourd'hui 45. Alors qu'on ne nous raconte pas que ça a été de très très belles années. C'est faux. C'est faux. Le clergé avait 1600 ordinations par an en France lorsque j'étais petit, et il en a une centaine. La moyenne d'âge du clergé était de 40 ans, elle est aujourd'hui de 70 ans. Alors il est temps qu'on donne enfin à ceux qui le veulent et qui ont la foi chevillée au corps, comme c'est notre cas, les moyens de commencer cette reconquête qui, pour l'instant, faut bien l'avouer, est sur des ruines. Et des ruines, c'est peut-être aussi pour cela que on est obligé de faire appel à ces familles belles et pleines de foi, parce que justement, sans elles, il n'y a plus d'église. Et la vieillesse du clergé régulier et la faiblesse constatée de cet dialogue interminable qui finalement ne convertissent plus personne, ne font plus avancer l'église, c'est peut-être ça aussi qui fait l'obligation de s'adresser à la tradition catholique. Il ne s'agit pas que ça nous monte à la tête, mais c'est un fait. Les vocations naissent toujours dans la tradition, toutes. J'ai fait un débat il y a quelques années, quelques-uns s'en souviennent, à la télévision, avec Christophe de Chavannes, et nous étions quatre sur le plateau. Il y avait donc Christophe de Chavannes, Monseigneur Gaillot, Bernard Tapie et moi. Un peu explosif comme mélange. C'était pas une belote, mais ça y allait quand même très fort. Et après l'émission, peu importe l'émission, eh bien nous avons échangé quelques mots avec Monseigneur Gaillot. Il me dit, j'étais assez surpris d'ailleurs, j'aime bien les gens de conviction comme vous. Bon, eh bien je lui réponds, vous n'avez qu'à en faire autant. Bon. Et après il me dit, mais vous savez, et c'est pourquoi je vous raconte l'anecdote, je suis moi-même d'une famille très traditionnelle, m'a-t-il dit. Oui, Monseigneur Gaillot, celui qui a scandalisé si longtemps l'Église de France. Dans ma famille de 8 enfants, disait Monseigneur Gaillot, je l'ai entendu comme je vous l'entendais maintenant, mais de lui, nous récitions le chapelet à genoux tous les soirs, la famille de Monseigneur Gaillot. Et il n'était pas question avec mon père que l'un d'entre nous manquât le chapelet quotidien. Monseigneur Gaillot, oui, je sais bien de lui dont je vous parle. Vous voyez bien que même ces vocations, pour le moins insolites, à l'arrivée, sont nées dans la tradition. C'est un phénomène universel. Comment voulez-vous donner votre vie à Jésus-Christ pour des chimères de dialogue et d'interrelations communautaires, que sais-je, d'œcuménisme international? Enfin, c'est pas pour ça qu'on donne sa vie, évidemment. On donne sa vie pour Jésus-Christ, et c'est passionnant alors. Et donc tout ce qui peut être vital est forcément dans la tradition. Les journalistes sympathiques qui sont là avec leur caméra me disaient tout à l'heure, eh bien, mais la tradition et le catholicisme, je leur dis, c'est des pléonasmes de dire à une tradition catholique, ou alors c'est des synonymes. La tradition, la vie de l'Église, c'est la tradition. Et ceci est constaté maintenant dans l'Église. C'est que toutes les vocations, elles sont reçues différemment, mais elles naissent toutes de la piété, forcément, de la foi au Christ Jésus, d'une vie convenable, au point de vue de la foi, de la piété, de l'espérance, de la charité, des sacrements et de la vie morale. Où voulez-vous qu'elles naissent, les vocations, si ce n'est là, dans ce bon terreau de la tradition? Alors, voilà l'explication. Je vous ai tout dit, je pourrais encore vous parler des heures, mais je crois vous avoir tout dit. Il vous sera distribué à la sortie tout à l'heure deux documents. Le premier est le communiqué officiel des prêtres du Bon Pasteur, donc prenez-le, il est à votre disposition. Il vous dira à peu près ce que je vous ai dit maintenant, mais enfin vous aurez un texte. Et puis je me suis permis de demander à notre secrétariat de multiplier l'article du Figaro d'hier. Ce n'est pas souvent que je recommande un article. Je n'ai rien contre le Figaro, en général, mais celui-là m'a paru justement très sympathique. Non pas seulement parce qu'il nous appelle les tontons flingueurs, bon, ça ne me gêne pas beaucoup d'ailleurs, mais enfin, à titre personnel, mais je trouve ça sympathique. Je remercie Sophie Dravinel, ici présente. Mais je pense qu'il y a là ce n'est pas parole d'évangile que le Figaro, même celui-là, nous sommes d'accord. Mais je pense qu'il y a là un résumé de la situation qui me paraît tout à fait sympathique et profondément vrai au point de vue des positions. Donc, le communiqué, lui, est officiel. Vous pouvez le multiplier. Il faut d'ailleurs le faire. Mais lisez avec intérêt cet article très sympathique du Figaro d'hier. Et puis, rendez-vous tout à l'heure pour ce Tédéum. Et nous allons nous allons célébrer cette messe, mais cette messe d'action de grâce. Parce que franchement, en revenant de Rome, je suis surpris, vraiment profondément surpris, entre mes espérances et la réalisation de ces espérances. Ce n'était pas chose facile, imaginez-vous. Et il y a un concours de circonstances providentielles, j'en parlais encore avec M. Labéry, avec mes confrères de Paris aussi, tel qu'on a vraiment été nous-mêmes, j'allais dire, empoignés quelque part par la Providence pour parvenir à ce résultat. Mais n'oubliez pas que ce résultat est un début, un beau début, un très beau début. C'est un beau bébé que l'Institut du Bon Pasteur, mais on ne peut pas lui faire courir le marathon demain. Il faut donc s'en occuper et il va grandir et le travail commence. Saint-Éloi sera le prototype de cette résurrection des paroisses vraiment traditionnelles en France et j'espère ailleurs, si le bon Dieu nous bénit, comme il a commencé de le faire. Mais quel travail devant nous et ne nous reposons pas sur nos lauriers. Que cette action de grâce soit une action de grâce dynamique, efficace, en promettant au bon Dieu que ce service que nous lui vouons depuis quelques années, il le bénisse et le fasse grandir et fructifier pour la gloire de Dieu et celle de l'Église catholique, apostolique et romaine, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.